Bonjour et bienvenue dans cette édition hebdomadaire d'À Propos. J'espère que vous avez tous passé une belle fête des tabernacles. Je ne suis pas le premier à vous adresser ce vœu, mais ma femme et moi avons vraiment apprécié la fête cette année. Nous l'avons célébrée avec nos deux filles et leur famille à Orange Beach, où nous avons passé une excellente fête. Comme vous pouvez le constater, j'enregistre ceci depuis mon bureau. C'est une première pour moi. Et la raison en est que nous enregistrons aujourd'hui l'émission « Vie, espoir et vérité présente » dans le studio. Aujourd'hui, je souhaite aborder la capacité de nos membres internationaux à se réunir lors du sabbat et des jours saints. Mais avant d'en venir à ce sujet, je voudrais vous faire part de deux nouvelles. Toutes deux sont en réalité très préoccupantes. La première est une triste nouvelle et vient de l'un de nos pasteurs au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Monsieur Joseph Ba. Son épouse Patricia est tombée gravement malade juste après la fête et elle est décédée la semaine dernière. J'ai été très attristé. Nous ne connaissons pas encore la cause du décès, et comme vous pouvez l'imaginer, dans cette partie du monde, il arrive parfois qu'une personne tombe malade sans même savoir exactement ce qu'elle a contracté. Il a envoyé ses commentaires à M. Paul Carter, notre pasteur régional. Je les partage ici avec vous. Il a écrit ceci. Nous n'avons pas reçu de bonnes nouvelles concernant le décès soudain de ma chère épouse Patricia, survenue jeudi dernier, le 23 octobre 2025. Elle est tombée malade pendant quelques jours et m'a laissé en larmes. Bien que cela soit douloureux, la parole de Dieu nous a fait comprendre qu'elle dort et qu'elle se réveillera à la septième trompette de Dieu. Cela me réconforte, et les enfants aussi. Monsieur Carter est resté en contact avec Monsieur Ba. Et c'est vraiment, vraiment difficile. Nous vous demandons certainement de prier pour lui. J'ajouterai que certains ont demandé s'il était possible de lui envoyer des cartes. Aux États-Unis, c'est facile, mais à l'international, surtout en Afrique, c'est plus compliqué. Donc, si certains d'entre vous, individuellement ou en congrégation, veulent envoyer une carte standard signée par plusieurs à M. Ba, une carte de condoléances, merci de l'envoyer au bureau de l'Église avant le 10 novembre, nous devrons la recevoir d'ici là. À ce moment-là, nous l'inclurons dans un envoi au Ghana de notre prochain envoi de publication, plus tard, au cours du mois de novembre. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas M. Ba, et cela s'écrit, soit dit en passant, B.A.H. Joseph Ba. Veuillez le garder dans vos prières, lui, sa famille et les congrégations qu'il sert. Les nouvelles suivantes concernent un sujet que nous avons tous vu dans les actualités, à savoir l'ouragan Melissa. Je pense que nous savons tous que cet ouragan a désormais été qualifié de tempête tropicale la plus puissante de 2025 à l'échelle mondiale. Cet ouragan a atteint la catégorie 5, avec des vents soutenus de 300 km à l'heure. Et au moment où j'enregistre, il touche terre en Jamaïque. Au moment où vous verrez ceci, il aura déjà traversé la Jamaïque. Il sera bien avancé dans les Bahamas et au-delà. Mais en raison du grand nombre de membres vivant là-bas, nous tenions à vous demander de prier pour la protection du peuple de Dieu. J'ai été en contact avec M. Arnold Hampton, le directeur régional pour les Caraïbes, et M. Paul Fischer, le pasteur local avec lequel j'ai pris contact, avant l'arrivée de l'ouragan Melissa. Et il nous a assuré que les membres prenaient toutes les précautions possibles. Mais parce qu'on dit que c'est une tempête catastrophique de catégorie 5, sans aucun doute. Au moment où vous verrez ceci, nous en saurons plus sur l'impact qu'elle a eu sur la nation insulaire de la Jamaïque et, espérons-le, d'ici là, nous en saurons davantage sur la façon dont nos membres ont été affectés. Certains ont également demandé ce qu'ils pouvaient faire financièrement pour aider les membres, car, sans aucun doute, même s'ils sont protégés de tout danger, nous savons qu'il y aura pas mal de dégâts aux bâtiments et aux infrastructures en Jamaïque. Si vous souhaitez faire un don pour aider les membres en Jamaïque, veuillez le faire via le Fonds international de l'EDAM. Nous l'avons déjà dit. Si vous contribuez au Fonds international, ces fonds aideront les frères et sœurs en Jamaïque. Les membres de l'Église ont toujours montré une grande générosité lorsque nous avons demandé leur aide. Et nous tenons simplement à vous rappeler que si vous souhaitez contribuer, veuillez le faire en indiquant clairement votre contribution au Fonds international. Mais, plus important, nous demandons vos prières pour la protection de Dieu sur son peuple en Jamaïque. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, je veux parler de la capacité de nos membres à se réunir régulièrement pour le sabbat et les jours saints. La plupart d'entre nous pourraient considérer cela comme acquis, mais à l'international, la situation est un peu différente. J'ai commencé à préparer cela il y a quelques semaines, juste après la fête des tabernacles, et j'ai contacté bon nombre de nos pasteurs internationaux pour leur demander quels étaient, disons, certains des défis rencontrés. Chez certains membres qui vivent dans des zones isolées ou qui ne peuvent pas se réunir pour les assemblées. Ou des cas où il n'y a qu'une seule famille dans tout un pays. j'ai reçu tellement de retours de leur part qu'il y avait tout simplement trop de matière à traiter pour cette émission. Et j'ai décidé de me concentrer sur les personnes ou les congrégations qui cherchent à obtenir une reconnaissance légale formelle dans leur pays. Nous aborderons certains de ces autres membres vivant dans des zones isolées lors d'une prochaine émission à propos, un sujet pour lequel je me réjouis d'avance. Je souhaite donc évoquer d'abord les situations où nous cherchons à obtenir une reconnaissance formelle et légale dans certains pays en particulier. Rappelons toutefois que nous avons des membres dans certaines régions où le groupe est si petit qu'il n'est pas nécessaire d'être formellement reconnu ou enregistré. Nous avons également des personnes qui vivent parfois complètement seules dans des îles éloignées, sans congrégation. Mais encore une fois, je veux me concentrer sur ceux qui cherchent une reconnaissance légale pour pouvoir se réunir en assemblée. Maintenant, certains d'entre vous s'attendent à ce qu'ils reçoivent des commentaires de M. Joël Micker. Eh bien, en effet, vers la fin de cette émission, nous verrons une interview vidéo avec M. Micker. Ceci dit, beaucoup parmi nous peuvent se réunir le jour du sabbat sans problème. La plupart d'entre vous qui regardez ceci vivez aux États-Unis et des membres du monde entier regardent à propos. Mais beaucoup d'entre nous se réunissent chaque sabbat et n'y réfléchissent même pas à deux fois. Nous jouissons de ces libertés sans aucun doute. J'aimerais me reporter à Actes chapitre 2 pour commencer. Et commenter sur ce qui s'est passé quand l'Église initiale était en train de se former dans Actes chapitre 2 à partir du verset 41. Il est dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quel bonheur cela a été pour ces personnes, et quel bonheur cela demeure pour nous aujourd'hui dans la plupart des circonstances. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous vous réunissez pratiquement chaque sabbat ou de façon régulière, et vous pouvez fraterniser et rompre le pain ensemble. Mais permettez-moi de faire un commentaire concernant ceux qui vivent dans des régions internationales au sujet de l'enregistrement et de la reconnaissance. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, certains sont en si petit nombre que nous n'avons pas besoin d'être enregistrés. Et nous avons des membres qui vivent dans des pays où les conflits politiques et militaires sont très intenses. Il leur est très difficile de se réunir. À titre d'exemple, nous avons un groupe de frères et sœurs qui vivent à Rangoon, au Myanmar, l'ancienne Birmanie. Et la situation y est tellement dangereuse que M. Becker n'a pas pu s'y rendre depuis presque 5 ans. Il espère pouvoir rendre visite à ces personnes dans un avenir proche, mais encore une fois, c'est un autre sujet. Mais permettez-moi de commenter sur 5 pays pour lesquels nous cherchons à obtenir une reconnaissance officielle en 2025. Tout d'abord, je mentionnerai brièvement la Colombie, en Amérique du Sud. La Colombie est en fait le seul pays d'Amérique latine pour lequel nous cherchons actuellement une reconnaissance officielle. Dans la plupart des pays, nous l'avons déjà obtenu. Et bien sûr, nous avons sollicité les conseils d'un avocat. Nous cherchons en réalité à faire reconnaître les congrégations en Colombie sous l'égide de notre grande congrégation au Chili. Nous estimons que ce serait une manière plus simple de procéder. Et ce processus a commencé. Nous espérons que cela sera approuvé dans les semaines ou les mois à venir. Également, dans 2 pays d'Afrique de l'Est, au Kenya, pendant de nombreuses années, le gouvernement kényan avait imposé un moratoire sur la reconnaissance de nouvelles églises. Je n'en étais pas conscient jusqu'à récemment, mais ils avaient instauré ce moratoire en raison des scandales et des escroqueries qui avaient lieu au sein des églises. Beaucoup prêchaient l'évangile de la prospérité, ce qui signifiait pour eux « Vous nous payez, vous nous donnez vos dîmes et vos offrandes. » Aussi dérisoire soit-elle, et Dieu vous bénira. Et, bien sûr, le gouvernement a sévi contre eux et a effectivement instauré un moratoire sur la reconnaissance de nouvelles églises. Eh bien, ce moratoire a été levé récemment et nous avons sollicité la reconnaissance au Kenya. Et encore une fois, c'est un long processus, comme c'est le cas dans la plupart de ces pays. Tout d'abord, nous avons dû soumettre cette année des documents auprès de la Société des registres, et cela constituait une première étape. Ensuite, nous avons dû soumettre des documents et obtenir l'approbation du Service national de renseignement, qui est l'équivalent kényan de la CIA. C'est donc à ce stade que se trouvent actuellement les documents. Nous pensons que la procédure est terminée et nous espérons que cette reconnaissance et la documentation officielle attestant que nous sommes une église reconnue au Kenya seront approuvées dans les semaines à venir. Ensuite, bien sûr, vient l'Ouganda. Nous en avons beaucoup entendu parler pendant la fête des tabernacles avec nos frères rwandais qui se réunissaient là-bas dans la partie la plus méridionale du pays. Mais nous avons aussi une congrégation à Kigom. Je sais que nous l'avions évoqué plus tôt dans l'année après une visite en Ouganda. Avec M. Wadel. Nous avons donc une congrégation d'environ 40 personnes dans la partie nord de l'Ouganda. Et nous avons entamé le processus de demande de reconnaissance au mois de juin. Nous espérions être entièrement enregistrés. que tout soit fait et enregistré avant la fête des tabernacles. Et nous n'avons pas tout à fait atteint cet objectif. Nous avons soumis des documents. Puis, comme c'est souvent le cas dans bon nombre de ces pays, d'autres documents ont été demandés. Et beaucoup de ces documents devaient être signés et notariés par des membres de l'administration ici au bureau, et même par certains membres du conseil d'administration de l'Église. Mais nous les avons envoyés et nous espérons obtenir l'approbation finale dans les mois à venir. Et puis, bien sûr, il y a le Zimbabwe. Je sais que cet été dernier, lorsque mon épouse et moi avons rendu visite à certaines des églises d'Afrique australe, j'ai évoqué la situation au Zimbabwe. Au printemps, le Zimbabwe a notamment modifié ses lois concernant les ONG dans le pays. Une ONG signifie une organisation non gouvernementale. Nous les appelons organisations à but non lucratif aux États-Unis, mais ils ont modifié leurs lois, en particulier pour les ONG venant de l'extérieur du Zimbabwe, et cela a affecté notre église là-bas. En d'autres termes, cela signifie qu'ils s'inquiètent de l'influence politique que pourraient avoir des églises étrangères sur le pays. Ils ne veulent aucune ingérence, ce qui, encore une fois, est typique de bon nombre de ces pays. Et les banques ont commencé à retenir l'utilisation des fonds pour les organisations ou les églises qui recevaient de l'argent de l'étranger. Ainsi, notre pasteur dans la partie ouest du pays, M. Stephen Shabalala, n'a pas pu accéder aux fonds. Il a fini par recevoir une visite. En juillet, deux membres des services de renseignement sont venus le voir, et bien évidemment, cela l'a beaucoup inquiété. Je me souviens bien du jour où il a été informé de leur visite, quand il a demandé à M. Tim Waddell, à M. Neville Smith et à moi-même de prier à ce sujet. Nous ne savions pas quelle serait l'issue. Ils lui ont rendu visite et il leur a fourni des informations sur l'église. Il a pu leur remettre des documents concernant l'utilisation des fonds en particulier. Des fonds que l'église avait reçus de FOI pour aider certains jeunes avec des bourses. Heureusement, nous avions tout cela bien documenté. Il leur a également remis de la documentation, en fait. Il s'est avéré que le pays exigeait que nous soyons enregistrés auprès d'une organisation religieuse. Et maintenant, nous le sommes légalement. Et les choses pourraient changer. Nous en sommes conscients, mais nous sommes très heureux que cela ait eu lieu. Et encore une fois, que nous ayons pu franchir cet obstacle. Celui d'avoir pu enregistrer à nouveau l'église au Zimbabwe. Et puis, bien sûr, il y a le Rwanda. Nous avons entendu pas mal de choses de la part de M. Micker au sujet du Rwanda et sur ce qu'ils ont affronté pendant plus de 2 ans. Maintenant, l'une des choses que j'ai apprises en discutant avec M. Micker, c'est que nous cherchons à obtenir la reconnaissance dans ce pays depuis plus de 30 ans, mais en raison des changements de gouvernement, en raison des changements d'exigence. Au fil des années, de façon intermittente, nous n'avons jamais pu obtenir une reconnaissance complète. Et le dernier effort a commencé il y a environ 5 ans. Et comme cela vous a été communiqué, ils ont de nouveau changé les règles afin de rendre la tâche très longue et très difficile avant que nous puissions nous réunir là-bas. Et ainsi, ils ont cadenassé les portes de notre bâtiment d'église et nos membres n'ont plus obtenu la possibilité de se réunir légalement en assemblée depuis lors. Et encore une fois, je pense que nous en sommes tous bien conscients. Bien sûr, il y a eu la crise qui s'est produite pendant la fête, où M. Micker a été interrogé et nos membres présents dans le sud de l'Ouganda, venant du Rwanda, ont été incarcérés une journée. Nous savons maintenant que tous ont pu rentrer chez eux sains et saufs, et nous en sommes reconnaissants. Après la fête, j'ai parlé à M. Micker et je lui ai demandé s'il accepterait de faire un commentaire, dans une interview vidéo plus détaillée sur certains de ces événements, sur ce qui est arrivé à nos frères et sœurs du Rwanda lors de la fête des tabernacles en Ouganda.
Bonjour à tous. Monsieur Ortschak m'a demandé de vous faire un bref point sur la situation au Rwanda et en Ouganda, sur la façon dont les événements se sont déroulés et l'impact sur nos frères et sœurs dans cette région. Comme vous le savez, j'en parle depuis un certain temps déjà, nous avons été déclarés illégaux en tant qu'église par le gouvernement rwandais. Nous ne pouvons pas nous réunir là-bas, un cadenas bloque notre salle d'assemblée. Depuis 2 ans, nos frères de l'église ne peuvent plus se réunir librement. Ils n'ont pas eu de fête des tabernacles l'année dernière. L'idée m'est venue que même si nous n'avons pas le droit de nous réunir là-bas, nous pourrions peut-être aller dans le pays voisin, l'Ouganda, qui a la réputation d'être plus ouvert et où la pratique religieuse est plus libre. J'ai consulté M. Tim Waddell, qui a parlé à des membres ougandais du Nord, et ils ont dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème. M. Waddell et moi sommes donc allés chercher un emplacement idéal à Tangamo, à environ 1 heure de route de la frontière rwandaise. 16 de nos frères rwandais s'y sont rendus. Nous avons rendu ces arrangements possibles pour eux. Ils sont tous entrés légalement dans le pays. Mon épouse et moi avions des visas pour y entrer légalement. Il n'y avait jamais eu auparavant d'exigence nous imposant de prévenir qui que ce soit avant d'organiser une conférence de quelques jours. Et nous avions prévu qu'ils puissent célébrer la moitié de la fête avec nous. Leur pasteur, M. Mundeli, est gravement malade et il fait des allers-retours à l'hôpital. Il n'allait donc pas pouvoir être avec eux. Afin qu'il y ait un ancien présent pour superviser les choses, nous avons décidé de leur consacrer les 4 premiers jours de la fête, puis mon épouse et moi devions nous rendre en France pour la seconde partie de la fête. Ainsi, tout le monde est arrivé à Dongamo comme prévu. Nous étions tous présents légalement. En fait, les policiers qui nous ont arrêtés par la suite nous ont dit que nous étions rentrés légalement dans le pays, mais ils ont insisté sur le fait qu'il était obligatoire d'informer l'appareil de sécurité du pays avant d'organiser toute forme de conférence. Et ils voulaient savoir en quoi consistait la conférence, ce que nous faisions, il leur paraissait très suspect que nous agissions ainsi. J'ai donc présenté mon visa, ma carte professionnelle, et j'ai proposé de leur laisser consulter le matériel que nous avions présenté lors des sermons, des messages et des autres interventions. C'est alors qu'ils nous ont informés, « Oh non, non, nous devons enquêter. » C'est très sérieux, vous pourriez menacer le pays. Mais je prends de l'avance sur mon récit. Nous avons eu une soirée inaugurale. Ils ont bien mangé et ils étaient satisfaits de la qualité de la nourriture. Le premier jour saint, nous avons eu l'assemblée et une étude biblique. Là encore, il y a eu d'excellents repas et une bonne convivialité. C'est le deuxième jour de la fête que l'on m'a informé, alors que nous terminions de regarder le sermon enregistré. Nous avions des sermons enregistrés lors de la fête des tabernacles de l'année dernière en France, et notre excellente équipe média avait pu ajouter des sous-titres en tinyarwanda, en bas de l'écran. Ainsi, nous n'avions pas à traduire phrase par phrase, comme nous avons parfois dû le faire. Nous étions donc en train de conclure l'assemblée du deuxième jour de la fête, et l'on m'a informé que des responsables m'attendaient à l'extérieur. Après avoir dit « Amen », je suis sorti et je leur ai parlé, ils m'ont informé qu'ils étaient des agents des services de renseignement et que ce que nous faisions était très suspect. Nous avons tenu cette réunion sans les avoir informés, ce qui était une grave violation du contrat et de la loi. Après la discussion, j'ai dit « Si nous ne sommes pas les bienvenus, nous partirons et retournerons immédiatement au Rwanda ». Ils ont répondu « Non, 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 vous ne comprenez pas à quel point c'est sérieux ». C'est alors que j'ai compris que tout cela visait à me soutirer de l'argent. Et ils allaient utiliser nos frères d'église comme des otages, en somme, pour s'assurer que je leur paierais le pot de vin qu'ils réclamaient. La police a de nouveau dit « Vous êtes entrés légalement, il n'y a rien d'illégal dans votre venue ici, mais vous ne pouvez pas organiser une conférence ici sans que nous en soyons informés à l'avance. » Monsieur Wadel m'a dit qu'ils ne l'ont jamais fait. J'ai organisé des conférences comme celle-ci, dans 10 pays d'Afrique, au cours des 30 dernières années. Je n'ai jamais eu à informer les autorités, nous avons été transparents avec eux et n'avions rien à cacher. Ils ont commencé à interroger les deux membres qui parlaient anglais, qui est leur langue, en recoupant nos réponses. Mais en réalité, cela ne faisait que nous empêcher d'observer la fête pour chercher un moyen de nous contraindre à finalement payer le pot de vin qu'ils réclamaient. Après le déjeuner, plus tard dans la journée, ils ont déclaré que nous allions tous être emmenés au poste de police. J'ai déjeuné avec mon épouse à notre hôtel, qui se trouvait à une courte distance, et je l'ai informé qu'elle devait rester à l'hôtel, et que je m'occuperais des affaires avec la police et les frères et sœurs. Marjolaine est restée à notre hôtel, sans être ni détenue, ni arrêtée par la police. J'ai donc été arrêté avec les 16 membres de l'église. Nous avons été détenus par la police, emmenés au poste et ils ont tous été placés dans une cellule. Ils m'ont gardé dans une pièce, puis j'ai été déplacé de pièce en pièce et on m'a demandé de répéter mon histoire plusieurs fois. Et puis M. Wadel est entré en contact avec notre avocat dans le pays, qui a joint un avocat local à Tangamo, lequel est venu au poste de police et a proposé d'essayer d'aider. En gros, il m'a informé, lorsque nous étions seuls, qu'il voulait un pot de vin assez important et que s'il était payé, tout serait réglé en un instant et nous serions tous libres de partir. C'était après la fermeture des banques. J'ai dû trouver un endroit et quelqu'un pour changer de l'argent. Nous avons trouvé quelqu'un qui a pu le faire. L'argent a été remis par l'avocat aux policiers. et nous avons tous été déclarés libres de partir. Le lendemain matin, ma femme et moi voulions rester dans la région jusqu'à ce que nous soyons sûrs que nos frères d'église seraient libérés. Nous avons donc attendu en voiture près de la ville jusqu'à l'appel de l'avocat. Ce qui s'est passé, c'est que les policiers ont commencé à appeler notre chauffeur, ce qui m'a indiqué qu'il voulait, pour ainsi dire, remettre ça. Nous avons donc décidé de prendre la route, de mettre un peu de distance entre eux et nous, mais sans quitter l'Ouganda. Nous avons attendu à la frontière, à une heure de route, jusqu'à être certains que nos frères étaient libérés, ce qui n'est arrivé qu'en début d'après-midi. Dès qu'ils étaient en route vers la frontière, nous avons traversé. Nous avions un vol à prendre à Kigali. À l'aéroport, en attendant le décollage, nous avons appris que tout le monde avait franchi la frontière. Ils rentraient chez eux. Nous avons reçu la nouvelle avant de partir que tout le monde était bien rentré chez soi en sécurité. J'étais donc vraiment fier du comportement de nos frères de l'Église au Rwanda. Je sais que nous avons de telles attentes en matière d'équité en Occident et que nous pouvons devenir très irrités lorsque les choses ne sont pas justes, surtout de la part des autorités. Et nous pourrions être tentés de nous demander « Pourquoi Dieu permet-il que cela arrive ?» Nous lui obéissons, nous célébrons sa fête. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un peu de répit ici ? Et il ne serait pas inhabituel que de telles questions nous traversent l'esprit. Permettez-moi simplement de partager avec vous la réponse de nos frères rwandais, l'un d'eux m'ayant écrit au nom de tous. Leur réponse a été « Rendons grâce à Dieu au ciel qui nous a délivrés de la main de ces policiers. » Il n'y avait donc ni colère, ni frustration, seulement de la reconnaissance. Et j'ai trouvé que c'était une leçon tout à fait remarquable. Ils sont très reconnaissants d'avoir été libérés et ils ne nourrissent aucune rancune envers l'Église ou envers Dieu. Ils sont simplement reconnaissants qu'il les ait délivrés de cette épreuve. Et nous allons continuer à examiner tout ce que nous pouvons faire pour permettre à nos frères de l'Église au Rwanda de se réunir à nouveau légalement. Nous frappons à toutes les portes et nous faisons notre part pour que cela se réalise. Je remercie tous ceux qui ont prié pour nous, pour nos frères, pour ma femme et moi. J'ai déjà vécu des situations similaires, donc assez tôt, ce qui se passait ici est devenu très clair. En Afrique, on ne peut jamais être totalement certain de la façon dont les choses vont se dérouler et il y avait une possibilité que la situation tourne beaucoup plus mal. Bien plus mal. Il a été question de nous détenir pendant plusieurs jours, le temps qu'ils mènent leur enquête approfondie. En réalité, ce n'était qu'un moyen de nous mettre la pression. Même le fait de mettre nos frères en cellule n'était qu'une façon de m'obliger, en tant que pasteur, pour que je fasse le nécessaire afin de les faire sortir. C'est ce que nous avons fait. Je vous remercie donc beaucoup pour vos prières. Merci pour votre soutien. Cela compte beaucoup pour nous, pour tous ceux d'entre nous qui travaillent dans ces régions du monde. Nous apprécions vraiment votre participation et le fait que vous aidiez à porter le fardeau que supportent vos frères et que nous portons ici. Alors, merci beaucoup.
Alors que nous continuons à prier pour le peuple de Dieu au Rwanda, et d'ailleurs pour le peuple de Dieu dans le monde entier, afin que nous puissions continuer à nous réunir et à nous assembler librement pour adorer Dieu, j'aimerais que nous réfléchissions tous aux paroles de l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 10, non seulement à la lumière de ce dont les membres au Rwanda sont privés, mais aussi avec tout ce que nous devons tous continuer à apprécier dans notre capacité à nous réunir. Reportons-nous donc à Hébreux chapitre 10, à partir du verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Frères et sœurs, continuons à prier afin que Dieu accorde la liberté de réunion et l'encouragement mutuel alors que nous tournons nos regards vers l'avenir. J'espère que cette mise à jour concernant cet aspect des défis auxquels certains de nos membres sont confrontés à l'international vous a été utile à tous. C'est à peu près tout pour cette édition hebdomadaire de À Propos, et j'espère que vous serez tous avec nous la semaine prochaine. Lorsque M. Clyde Kyle nous donnera des nouvelles sur l'œuvre de l'Église et sur nos efforts médiatiques pour prêcher l'Évangile à travers le monde. Nous vous souhaitons maintenant à tous un merveilleux et reposant jour de sabbat.